Bonsoir Salomé Sacquet, bonsoir à tous. Merci d'être là pour écouter cette jeune journaliste venue nous présenter son livre aux éditions Payot, « Sois jeune et tais-toi ». Bonsoir à tout le monde. Donc merci d'être avec nous ce soir à Bordeaux, d'autant que vous êtes juste partout en ce moment dans les médias. On vous voit à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Donc en quelques mots, pouvez-vous vous présenter, Salomé Sacquet, nous dire pour quels médias vous travaillez, qui vous êtes ?
Déjà, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Je suis journaliste, j'ai 27 ans et je travaille principalement pour un média en ligne qui s'appelle Blast, le souffle de l'info, où je parle des questions d'économie principalement, mais aussi des questions d'inégalité sociale, ce qui est lié à l'économie, et d'écologie. Et ponctuellement, je travaille aussi pour des médias comme France Info à la radio, France 5 à la télévision, et Socialterre aussi, la revue, pour parler aussi d'économie.
Donc vous avez 27 ans, vous venez de le dire. Vous vous considérez comme jeune ou...
C'était la grande question en écrivant ce livre. Je pense que je suis à la sortie doucement de la jeunesse. En tout cas, dans les statistiques de l'INSEE qui établit la jeunesse entre 18 et 29 ans, je suis encore jeune et cette définition m'arrange beaucoup.
Donc 18-29 ans, ça représente combien de pourcentage dans la population française, les 18-29 ans ?
Je connais pas le pourcentage exact, je sais que ça représente 9 millions de personnes, donc je vous laisse faire le calcul.
C'était 20, quelque chose comme ça, c'était pas...
C'est même un peu moins, je crois.
En tout cas, par rapport à la génération des plus âgés, on va dire des baby boomers.
C'est deux fois moins que les plus de 60 ans.
Voilà, donc la pyramide des âges n'est pas en faveur de la jeunesse.
Clairement pas.
Voilà, ce qui a des conséquences...
Énormes.
Énormes. Donc, vous le racontez au début du livre, mais certains ne l'ont pas encore commencé. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur la jeunesse et ce livre sur la jeunesse ?
J'ai eu envie d'écrire ce livre sur la jeunesse parce que déjà, quand j'avais 15 ans, j'étais déjà un peu indignée. J'avais envie de m'exprimer dans les dîners de famille, de donner mon opinion sur les grands sujets de société, d'économie. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui étaient aussi comme ça. Et souvent, j'avais ce regard un peu de mes aînés et des remarques même formellement exprimées de « tu vas changer d'avis quand tu seras plus grande, c'est bien mignon, mais c'est la fougue de la jeunesse ». Et on ne prenait pas vraiment au sérieux ce que je disais. Et c'est quelque chose qui est resté avec les années et que j'ai ressenti de manière encore plus frappante en devenant journaliste, en devenant jeune journaliste et en arrivant relativement jeune sur les plateaux de télévision, où il y avait une forme de discrédit que j'ai ressenti, qui était accordé à ma parole. Ça passait par des petites remarques, ou tout simplement le fait que, par exemple, dans les coulisses, ça m'est souvent arrivé d'être dans des coulisses de télé au même titre que d'autres journalistes qui étaient là pour commenter, analyser l'actualité. Et on me parlait de mes vêtements, de mes cheveux, de beaucoup de choses, mais pas forcément des grands sujets de géopolitique, d'économie, d'écologie que j'allais essayer d'aborder. Et ensuite, il y avait souvent des accusations qui étaient formulées soit en coulisses, soit carrément en direct à la télé, des accusations en idéalisme, en manque de pragmatisme, en naïveté, qui sont souvent des qualificatifs qu'on va attribuer aux jeunes, comme s'ils n'étaient pas assez grands, comme s'ils n'avaient pas assez d'expérience pour comprendre. Alors, c'est pas lié, je pense, qu'à ma jeunesse. C'est un...
Oui, vous êtes en plus une femme. Femme journaliste qui fait de la politique, qui parle de politique,
exactement,
et d'économie.
Avec un regard qui n'est pas forcément celui qui est porté par la plupart des journalistes. Donc, je ne veux pas du tout réduire que à ma jeunesse. Mais je pense qu'il y a clairement un phénomène de disqualification de la parole des jeunes. Et surtout, ce qui m'a confortée dans l'écriture de ce livre, c'est d'en parler autour de moi, d'en parler avec les autres jeunes, d'en parler avec d'autres jeunes journalistes ou pas journalistes, qui étaient très nombreux et nombreuses, à avoir ce type de sensation et même d'agacement à la fin, de se dire « mais c'est pas possible, pourquoi on nous prend pas autant au sérieux que les plus âgés ?» Et donc, je me suis dit que si c'était un phénomène aussi visiblement global, en tout cas à mon échelle, ça valait le coup de l'étudier. Et en l'étudiant, et donc en faisant des recherches sur, par exemple, le traitement de la jeunesse dans les médias, donc de manière avec des études plus sérieuses que mon simple ressenti, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un simple ressenti, qu'il y avait bien des clichés qui étaient diffusés sur les jeunes, qu'il y avait bien un regard aussi qui pouvait être diffusé dans les médias, par la bouche aussi des politiques, qui étaient négatifs et qui, à mes yeux, devaient être déconstruits. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.
C'est ce que vous avez essayé de faire. Il y a aussi une anecdote assez marquante que vous citez au début de votre livre concernant... Justement, une manifestante jeune, vous pouvez la raconter. Elle est
oui,
ça a été le déclic de ce
absolument. Mais en fait, j'étais déjà en cours d'écriture, j'avais déjà commencé l'enquête. Et il y a eu une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux par Greenpeace en mai dernier, donc il y a quasiment un an, où on voit une jeune militante qui bloque l'assemblée générale de Total Energy à Paris. Donc, Total Energy, si vous voyez un petit peu niveau écologie, c'est pas le top du top. Hein. On est sur des activités plutôt climaticides, enfin qualifiées de climaticides par de nombreuses ONG et observateurs. Je pense notamment à la bombe, ce qui est qualifié de bombe climatique, y COP en Ouganda, en Tanzanie. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais vraiment, on a de quoi être très sérieusement préoccupé par les activités de Total Energy. Il y avait donc des jeunes, qui, alors pas que des jeunes d'ailleurs, mais globalement des militants et militantes écologistes qui étaient globalement plutôt jeunes, qui ont décidé de bloquer cette Assemblée Générale en demandant aux actionnaires, mais arrêtez de financer des énergies fossiles qui sacrifient notre avenir. Et donc il y a eu une espèce de friction entre, d'un côté, et c'est vrai que la scène est assez hallucinante quand vous regardez les vidéos, des personnes qui étaient globalement plus âgées. J'insiste, je ne suis pas du tout en train de vous dire là que tous les plus âgés sont des actionnaires de Total complètement égoïstes et que tous les jeunes sont des militants écolos. Et je fais très attention à mettre toutes les précautions dans mon livre, justement, parce que c'est tout simplement pas vrai. Mais en tout cas, je trouvais que c'était le symbole d'une certaine dynamique et d'un certain conflit de génération qui est à l'œuvre dans certaines parties de la société. Et donc, il y avait voilà, ces plus âgés qui étaient clairement très énervés de ne pas pouvoir rentrer dans leur assemblée générale, et ces militants qui faisaient un sitting pacifique. C'est très important de le préciser. Ils n'étaient pas agressifs, ils n'étaient pas violents. Ils étaient simplement assis devant les portes de Total Energy. Et ils ont commencé à échanger. Et les jeunes ont commencé à essayer d'expliquer aux plus âgés, enfin en tout cas les écolos, aux actionnaires de Total Energy, sur les raisons de leur engagement. Et il y a une tension qui est montée un petit peu parce que les actionnaires se sont énervés. Et à la fin, il y avait une jeune militante qui était en larmes, qui suppliait littéralement un actionnaire d'arrêter de sacrifier son futur. Et elle lui dit « Mais on va tous mourir de ce que vous êtes en train de faire, en fait, de ce que vous êtes en train de financer. » Et lui, il lui a répondu avec une agressivité absolument folle « Ferme ta gueule, connasse, crève et fais pas chier. » Et c'est... La vidéo, vous pouvez la trouver en ligne. Hein, elle est, j'ai trouvé ça fou que cette vidéo soit diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a quand même pas mal tourné. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si la scène avait été inversée? Si des jeunes étaient allés insulter devant des caméras avec une telle violence, ouais, des plus âgés? Quelles auraient été les conséquences? Eh bien, je suis assez convaincue, et c'est mon opinion, qu'on aurait vu ça en boucle sur les chaînes de télévision, sur cette jeunesse décadente qui ne respecterait pas ses aînés, et ça aurait choqué, et j'aurais trouvé ça normal. Mais là, le contraire n'a pas tant choqué que ça. Ça n'a pas été repris.
Oui, c'est passé crème, presque.
Là où c'est pas passé crème, c'est sur les réseaux sociaux, notamment dans les sphères plutôt écolo, notamment dans des réseaux sociaux, sur des réseaux sociaux jeunes. Je pense à TikTok, où la vidéo a vraiment explosé. Et c'est là, pour moi, c'était vraiment la cristallisation d'une forme d'incompréhension, en fait, sans parler de conflit générationnel, je pense d'incompréhension entre deux générations, parce que là, c'était vraiment le sujet de la conversation. Et donc, c'est vrai que j'ai décidé d'ouvrir ce livre avec cette phrase « Connasse, crève et fais pas chier », parce que je trouvais que c'était assez symbolique, quoi.
Une belle entrée en matière. Et à la suite, évidemment, ce n'est pas que ça. Le livre est très documenté, il est aussi riche en témoignages. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez travaillé, quelle méthode vous avez utilisée, comment... parce que c'est très riche.
J'ai essayé que ça le soit. J'ai vraiment travaillé sur deux piliers. Le premier, c'était l'aspect sociologique, statistique, économique, puisque c'est aussi mon métier. Et j'ai eu un peu l'habitude d'essayer de manipuler ces chiffres-là pour démonter les clichés. Par exemple, je pense à les jeunes sont paresseux, les jeunes ne voudraient pas travailler, qui est un truc qu'on entend beaucoup en ce moment. Concrètement, est-ce que les jeunes ne travaillent pas? Et ça se retrouve dans les statistiques de l'INSEE. Quelles sont les conditions de travail des jeunes? Est-ce qu'ils travaillent moins ou plus que leurs aînés? Avec quel type d'emploi, quel type de contrat? Donc j'ai vraiment essayé de m'appuyer sur des données purement statistiques. Par exemple, comparer les taux de chômage à différentes époques, comparer le taux d'emploi précaire.
En comparant ce qui est comparable aussi, parce que c'est pareil, c'est difficile de comparer notamment la qualité de vie, la qualité des emplois. C'est aussi avec ces nuances-là que vous essayez d'avoir...
Il y a des limites, c'est clair qu'il y a des limites. Par exemple, je pense aux conditions de travail. Clairement, dans les années 70, il y avait des emplois qui étaient beaucoup moins précaires. En revanche, il y avait peut-être moins de protection sur la sécurité au travail. Donc vous alliez travailler avec des murs où il y avait de l'amiante. Donc il y a vraiment des nuances à apporter. Mais il y a des chiffres qui sont quand même assez implacables sur l'instabilité dans laquelle est projetée aujourd'hui la jeunesse et des difficultés économiques qui sont quand même assez majeures. Donc je pense par exemple aux files d'attente pour de l'aide alimentaire qui vraiment se mesurent et sont vraiment de plus en plus impressionnantes. Je pense encore une fois à la précarité de l'emploi qui est un axe plutôt majeur. Et après, il y a la question de l'immobilier qui est énorme, et là qui est une immense inégalité générationnelle, où on voit que les plus âgés détiennent la majeure partie du patrimoine de ce pays, et que ce n'était pas du tout le cas dans les années 70, et qu'aujourd'hui, être jeune et vouloir investir, acheter une maison, vouloir acheter un appartement, un premier appartement, c'est comme arriver à une partie de Monopoly au 10e tour. On ne peut pas gagner. Parce que les investissements ont été faits à une époque, quand vous étiez un couple d'ouvriers, vous aviez un CDI, on pouvait vous prêter de l'argent et vous investissiez sur un marché de l'immobilier qui était beaucoup moins saturé qu'aujourd'hui et qui était beaucoup moins, avec des prix beaucoup moins élevés. Donc aujourd'hui, si vous êtes jeune et que vous avez, comment dire, l'équivalent du même salaire que vous pouviez avoir dans les années 70-80, vous avez moins la possibilité d'acheter. Donc par exemple, il y a toutes ces choses-là que j'ai essayé de comparer. Bien sûr, toute la question écologique est énorme, et là qui est une nouveauté. C'est-à-dire que nos aînés n'ont pas eu à ce point, alors il y en avait qui étaient déjà informés, mais il n'y a pas eu à ce point cette urgence écologique, ils n'avaient pas ces vagues de canicule qu'on a aujourd'hui, cette nécessité de transformer le modèle économique, cette inquiétude aussi qui est très profonde d'une grosse partie de la jeunesse, de voir que l'avenir qu'on nous promet est quand même assez sombre. Et là, j'ai donné la voix aux climatologues, à des scientifiques, donc sur l'aspect purement inégalité générationnelle. Je ne vais pas vous faire tout le livre là maintenant, mais j'ai vraiment essayé d'avoir cet aspect statistique, expert, en fait, avec des expertises où je donne la voix à des sociologues, à des gens qui connaissent beaucoup mieux la jeunesse que moi. Et ensuite, il y avait un aspect témoignage. Et là, pour moi, il constitue la moitié du livre, et il était vraiment fondamental à mes yeux, parce que derrière les chiffres et derrière les statistiques qu'on traite toute la journée en tant que journaliste, ou même qu'on va voir à la télé de tant de pourcents d'étudiants précaires, tant de pourcentages d'immobilier, ou qui sont des chiffres assez froids, il y a des réalités individuelles, il y a des destins qui sont brisés, il y a des vies qui sont dévastées, et on a tendance à oublier ce que ça veut dire, en fait, concrètement, si vous aviez en face de vous quelqu'un qui vous raconte ce que ça fait. Et même moi, j'ai commencé par l'aspect statistique, et ensuite d'aller sur les témoignages, ça m'a vraiment bouleversée pour certains. Et donc j'ai essayé, à chaque fois que j'illustrais quelque chose, précarité, problème du logement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui ne trouve pas de logement ? J'ai vraiment fait le maximum pour donner la parole aux jeunes que j'ai pu interroger, en leur donnant la parole avec un maximum de diversité dans l'échantillon, entre guillemets, une centaine de jeunes que j'ai pu trouver. Je ne suis pas sociologue, donc ce n'est pas parfaitement représentatif, mais il y a des jeunes d'extrême droite jusqu'à la gauche la plus radicale, en passant par des jeunes qui sont apolitiques. Il y a des jeunes qui sont dans une détresse absolue et qui ne peuvent même pas se nourrir. Il y a des jeunes qui, au contraire, vivent très très bien et qui n'ont aucun problème, qui sont dans une école privée, qui s'épanouissent, qui ne sont pas inquiets non plus spécialement pour l'avenir. Donc j'ai essayé de donner la parole à cette diversité de jeunes en sorte que ce soit le plus représentatif possible et que ça colle aussi avec les études, parce que c'était l'idée, c'est un travail de journaliste, que j'ai essayé de faire. Après, je sais pas si
mais il y a de la chair aussi, c'est pas que statistique ou c'est
c'était non, mais puis c'est marrant parce que c'est ce qui revient le plus dans les retours que je commence à avoir maintenant. C'est le témoignage de Lola, le témoignage de Mohamed Anis qui ça m'a bouleversé, ça m'a parlé, ça je me suis reconnue, et donc je vois que c'est un vecteur de l'information parce que ça permet, je pense, de déjà dans le livre plus digeste et plus avec plus de relief, de plus se rendre compte. Et j'ai eu des retours de plus âgés qui me disaient que c'était suite à la lecture de ces témoignages qu'ils avaient vraiment réalisé aussi la violence de ce que pouvaient vivre les jeunes. Et que jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément... C'est pas qu'ils s'en moquaient, c'est qu'ils n'y avaient pas forcément été confrontés.
Oui, il y a des témoignages qui sont effectivement bouleversants, qui sont pleins d'émotions. Il y en a un, par exemple, que vous avez en tête, là, que vous avez envie de nous raconter. Enfin, ils sont à peu près tous saisissants, même dans les cas contraires, même dans les cas contraires. Mais racontez-nous peut-être celui qui vous a le plus marqué.
C'est vrai que c'est difficile de choisir, parce que globalement, ils m'ont tous touché. Et il y a un truc que je voudrais préciser, c'est que je n'ai pas rencontré un seul jeune ou une seule jeune qui n'ait pas accepté de me parler. Et je ne suis pas passée que par mon réseau, c'est-à-dire que je ne suis pas passée que par des jeunes qui peut-être ont vu cet appel sur les réseaux sociaux et vont venir me voir plus facilement parce qu'ils connaissent mon travail. Je suis aussi allée voir des jeunes par contact.
Ou par écrit, même.
Par écrit, certains, parce que je savais... Enfin, je pense notamment aux jeunes d'extrême droite qui n'étaient pas super chauds quand même pour me parler, qui, à la fin, une fois que je rentrais dans la discussion, c'était fou à quel point ils avaient envie de m'expliquer réellement et de me convaincre et de me détailler, et ils y passaient du temps. Et peut-être qu'il y en a même parmi vous dans cette salle où je suis allée voir certains jeunes qui à la fin passaient des entretiens de 2, 3, 4 heures à me décrire leur vie avec avec tellement de détails et de volonté de se faire entendre, en fait. Et donc, pour moi, ça corroborait totalement la thèse de mon livre, qui est que les jeunes ont envie de parler, ont envie de communiquer, ont envie de se faire entendre.
D'être écoutés.
Oui. D'être écoutés, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs positions sociales. Moi, c'était que ce soit les plus aisés ou plus précaires. Il y avait vraiment cette volonté de m'expliquer aussi pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, de quoi ils avaient peur. Donc, globalement, tous les témoignages m'ont touché, même des témoignages de jeunes où à la base, ce n'était pas ceux qui allaient provoquer le plus d'empathie en moi,
oui,
ou qui n'allaient pas forcément le plus me bouleverser. Et en fait, si, à la fin, j'avais vraiment... peut-être que je suis trop rentrée en empathie, d'ailleurs, mais c'était assez frappant. Et si je dois dire un témoignage, c'est bien, parce que pendant toute cette petite tirade, j'ai pu réfléchir à quel témoignage j'allais donner. Non, je pense que c'est celui de Mohamed Anis, qui est un jeune de banlieue parisienne, qui est vraiment l'illustration parfaite de pourquoi la méritocratie est un mythe et de à quel point c'est insupportable d'entendre dans la bouche de certains, mais quand on veut, on peut, ou les jeunes n'ont qu'à se bouger s'ils le veulent. Parce que lui, c'est le jeune qui s'est bougé, mais qui s'est bougé comme il peut pas plus se bouger. Il a voulu faire, donc il vient d'une famille très modeste, avec un environnement culturel, social, où rien ne vous pousse à faire des études. Lui, il voulait faire des études d'histoire. Il a été pris à la Sorbonne. Il a travaillé tout ce qu'il a pu. En fait, il cumulait de nuit à côté tellement de petits emplois pour pouvoir subvenir à ses besoins, auxquels vous rajoutez des temps de transport en commun tous les jours, qui sont monstrueux. C'était plusieurs heures, ce qui fait qu'à la fin, il ne pouvait pas physiquement mener à bien ses études. Et ce qui était fou, et c'est peut-être ça qui m'a le plus bouleversé dans son témoignage, c'est qu'il n'était même pas énervé. Il n'avait même pas ce sentiment d'indignation et d'injustice que moi je ressentais en l'écoutant, où il me disait, bah oui, c'est vrai, c'est comme ça.
Il est résigné.
Des gens comme moi, on sait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est quelqu'un, donc un jeune qui était passionné d'histoire, qui aujourd'hui travaille dans un domaine qui n'a absolument rien à voir, il a dû faire un... Je ne sais plus quel était le diplôme exact, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais pour travailler directement et gagner de l'argent directement. Et il continuait à me parler d'histoire. Et moi, je lui demandais, mais par exemple, qu'est-ce que tu penses de la guerre froide? Qu'est-ce que tu penses de certaines périodes? Et il était ultra cultivé. C'est là, encore une fois, on est à rebours du cliché des jeunes qui s'en foutraient de tout, qui seraient incultes, qui seraient désintéressés des grands sujets de géopolitique. Il était franchement ultra cultivé. Il avait toute sa place. Et surtout passionné, en fait. Au-delà de cultiver, c'est quelqu'un qui était passionné et qui est passionné. Et de me dire qu'il ne fait pas ce qu'il aurait pu faire et ce qu'il aurait probablement fait s'il avait été dans une autre famille, ça m'a vraiment touchée. Et encore une fois, je me souviens, parce que je lui ai renvoyé ses lignes après. Pour la plupart des jeunes, j'ai renvoyé les lignes, surtout quand c'était des témoignages longs comme ça, pour être sûr de ne pas déformer leurs propos. Parce que moi, parfois, je coupe, je ne peux pas tout mettre, je ne peux pas mettre les 3 heures de témoignage. Donc, je voulais être sûr de ne pas avoir trahi leurs paroles. Donc, je leur renvoyais. Et lui, il me disait non, mais tout va très bien. Juste merci de me donner la parole. Et ça m'a. J'ai trouvé que c'était tragique, en fait, son quotidien. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, visiblement, qui a l'air d'être génial et extraordinaire, et qui est vraiment pas le type de jeune auquel on donne la parole dans les médias normalement.
Donc effectivement, votre livre consiste à déconstruire notamment les critiques qu'on fait aux jeunes et expliquer pourquoi. Donc ce ne sont pas des paresseux, ils ne sont pas apolitiques, ils ne sont pas cultivés, et ils ne sont pas égoïstes, par exemple. Expliquez-nous.
Non, clairement. Alors après, encore une fois, j'insiste, je ne vais pas faire ma relou, mais il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Chaque sociologue que j'ai interrogé me l'a dit tout de suite. Attention, ne dites pas les jeunes, parce que ce n'est pas les jeunes, il y a plein de jeunesses différentes. Et il faut faire bien attention à faire cette distinction. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de traiter, c'était des tendances générales. Je dis ça parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un dans la salle qui va me dire « Oui, mais moi, mon petit neveu, il se trouve que lui, il est très égoïste, je vous crois. » Je ne dis pas que c'est tous les jeunes qui seraient géniaux. Et d'ailleurs... Il ne s'agit pas de faire une défense aveugle de la jeunesse en disant « quelle génération incroyable, ils n'ont aucun défaut, ils sont merveilleux », c'est vraiment pas le cas. C'est juste de dire que les procès qu'on leur fait sont généralement excessifs et injustifiés, et surtout qu'ils ne sont pas plus égoïstes que n'ont pu l'être leurs aînés, qu'ils ne sont pas plus individualistes, et qu'il y a aussi de nombreuses explications à leur comportement. Je pense à la question des réseaux sociaux et du numérique, qui est pour moi un des grands objets d'incompréhension entre les générations, où on a vraiment des plus âgés qui disent « mais c'est quoi ces enfants-là, ou ces gamins, ou ces ados, qui sont sur leurs écrans toute la journée, ou encore pourquoi ils regardent ces youtubeurs, ou ces streamers, ou ces tiktokers, c'est complètement débile, enfin, ça n'a aucun sens, nous, de notre temps, on lisait, ou, enfin, voilà. » Il y a souvent, ça c'est une critique qui va beaucoup revenir, et qui en réalité, par exemple, sur la question des pratiques culturelles, ne se retrouve pas dans les faits, c'est-à-dire que les jeunes sont ce qu'on appelle des omnivores culturels, et ça, c'est plusieurs enquêtes officielles que je cite, où ils sont en réalité très impliqués, encore une fois statistiquement, à grande échelle, dans différentes activités culturelles qui ne relèvent pas du tout que du numérique. On a par exemple un jeune sur deux en France qui a été ou qui est dans une association, qui est donc tournée autrement que voilà, sur leur smartphone, qui sont sur les chiffres de la lecture également. On se rend compte que les jeunes ne lisent pas moins, c'est qu'ils jeunes, ils lisent différemment. Donc est-ce que si vous lisez des mangas, c'est de la lecture ? C'est une question qu'on peut se poser, mais qu'on se pose peu, finalement, parce qu'à la télévision, on va souvent, je reprends des exemples d'articles dramatiques, on dit les jeunes sont illettrés, ils ne veulent plus rien comprendre, et tout ça. Donc c'est, en tout cas, j'appelle à avoir plus de nuances dans ce traitement-là. Et ensuite, sur la question purement des réseaux sociaux, c'est à double tranchant, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'Internet, c'est horrible, et qu'effectivement, il y a des dérives qui sont graves, et qui sont très problématiques de manière générale dans notre société, et qui ne concernent pas que les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas que les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez vos parents ou vos grands-parents sur Facebook, avec les thèses complotistes, il se passe beaucoup de choses aussi. Donc ils ne sont pas plus, par exemple, sujets à être adeptes. Ça, c'est un autre point. On voit qu'ils ne sont pas plus sujets à être réceptifs à des théories complotistes, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Mais ils le sont, bien sûr, mais peut-être pas forcément plus que leurs aînés. Et surtout, ça tient à des transformations plus globales de la société. Et ensuite, et c'est là où j'essaie vraiment de démonter le cliché, c'est de dire, mais on n'y fait pas que des choses d'un culte égoïste sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des pratiques incroyables de jeunes qui se mobilisent. Il y a des jeunes qui créent des groupes de parole. Il y a des jeunes qui vulgarisent des sujets extrêmement complexes. Il y a des jeunes qui se retrouvent entre eux aussi pour partager des sujets qui sont difficiles. Je pense aux questions de santé mentale, qui sont typiquement quelque chose qui a éclos sur TikTok, où on a des jeunes qui essaient de parler à d'autres jeunes en expliquant ce que sont les problèmes de santé mentale, pourquoi ça ne doit pas rester une honte, comment ça peut être traité. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me semble être d'utilité publique, qui n'est d'ailleurs même pas menée par les pouvoirs publics, et les jeunes qui font ça, je trouve ça absolument salutaire. Et ensuite, il y a toutes les questions de politisation, de militantisme, d'information aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des posts Instagram qui ont beaucoup de succès, qui se partagent de jeune en jeune, entre guillemets, pour avoir une certaine sensibilisation à certains sujets, que ce soit sur l'écologie, le féminisme, la géopolitique. Je pense à des succès de chaînes comme celle du GoDécrypt dont je parle, où on peut penser ce qu'on veut du GoDécrypt, c'est quand même de l'information qui est diffusée très très massivement, et c'est un des premiers, c'est celui qui revenait le plus dans les témoignages, à des jeunes qui donc ont bien un intérêt pour ces choses-là. Et donc au lieu de se dire, bon, les jeunes, si je caricature, sont des abrutis qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire, où il y a aussi la question des jeux vidéo que je traite dans le livre, on peut essayer de le voir avec plus de nuances, sans en faire l'apologie totale et en disant c'est merveilleux, TikTok ou Instagram, et dire bon, il y a vraiment aussi des choses qui sont très très positives et qui méritent aussi d'être saluées et qui, à mes yeux, ne le sont pas assez en fait dans les médias traditionnel, conventionnel, où on va beaucoup avoir des reportages sur les dérives de la chirurgie esthétique sur TikTok, qui sont vraies, mais qui sont toujours à sens unique, où on voit pas aussi toutes les choses incroyables qui se créent, et aussi toute la socialisation. Alors là, c'est encore un autre aspect. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ce livre, c'est vraiment de prendre chaque cliché qu'on pouvait avoir. Et pour ça, je suis allée interroger mon vieil oncle en lui disant « Qu'est-ce que tu penses des jeunes ?» Et globalement, c'était des clichés qui revenaient beaucoup. Je suis allée voir ce qui se disait dans les médias sur les jeunes et en me disant « Est-ce que c'est vrai ?» Ou est-ce qu'on peut quand même soit complètement le démonter pour certains trucs, vraiment on peut le démonter. Les accusations en paresse, on peut vraiment la démonter totalement. Ou est-ce qu'on peut le nuancer? Et généralement, j'avais trouvé qu'il y avait à faire, quoi.
Alors que on va dire le conflit générationnel, en tout cas que la jeunesse soit fustigée, c'est pas nouveau, ça, c'est ce que vous montrez aussi, oui. Ça a existé à toutes les époques. En quoi c'est plus grave cette fois-ci ?
Bah oui, c'est quelque chose qui m'a pas tant étonné que ça, mais c'est vrai qu'on retrouve des traces, pardonnez-moi, mais de vieux cons, jusque dans l'Antiquité, où déjà, c'est les mêmes reproches. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. C'est les jeunes sont décadents, les jeunes sont paresseux, ils mènent notre société à leur perte, et moi, de mon temps, les jeunes, c'était mieux. En gros, c'est un peu le discours qui revient et qu'on trouve dans la bouche de Socrate. Alors attention, je ne vais pas dire que Socrate était un vieux con parce que là, ça va partir en bad buzz. Faut que je fasse attention. Mais on retrouve déjà, voilà, dès l'Antiquité, qui continue tout au long de l'histoire. Et ce qui est particulièrement marrant, c'est que certaines de ces critiques qu'on reçoit aujourd'hui, on les retrouve notamment pendant mai 68. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, ceux qui nous critiquent, c'était 68 tard. Certains, encore une fois, j'insiste sur le certain, pas tout le monde, mais qui, en leur temps, ne supportaient pas qu'on leur fasse ces critiques et qui se sont révoltés contre ça, qui se sont révoltés contre l'uniformisation de la jeunesse, contre ce regard négatif qu'on a pu poser sur eux. Et donc, ça pose une question un peu philosophique de est-ce qu'on est tous voués à devenir des vieux cons ? Est-ce qu'on est tous voués, à la fin, à se dire que quand même, de notre temps, c'était quand même un petit peu mieux ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ce qui est clair, c'est que les politiques actuelles, et c'est là on part sur quelque chose qui est beaucoup moins sensible et beaucoup moins philosophique, c'est que les politiques actuelles, et c'est ce que j'essaie de démontrer pendant tout un chapitre, sont menées à destination des plus âgés, et donc de leur présent immédiat, et ne sont pas menées pour préserver l'avenir des futures générations. Alors ça passe par la manière dont on structure notre système économique, notre système social, notre système de protection sociale, mais ça passe aussi et surtout par des politiques climatiques qui sont vraiment très peu significatives. J'allais dire inexistantes, mais on peut pas dire totalement inexistantes, mais qui sont vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Et on revient à cet exemple de cette jeune qui supplie des actionnaires de Total de dire « Mais vous êtes en train de sacrifier notre futur, aidez-nous. Nous, on va mourir. » Bon, là, c'est un peu ce qui est en train de se passer, si je caricature un peu, avec la manière dont on est en train de traiter politiquement la jeunesse. Et là, on a un conflit, entre guillemets, de génération qui est inédit, au sens où on a besoin... Nous avons un besoin vital, nous les jeunes là, qui sommes dans cette salle et qui sommes d'ailleurs partout dans le monde, que les plus âgés qui détiennent une bonne partie des pouvoirs financiers, en termes de patrimoine, en termes de politique, je pense au vote, vous l'avez dit au début, les plus âgés sont deux fois plus nombreux. Donc en fait, quand bien même on se mettrait tous à voter demain pour préserver notre avenir, on ne peut pas contrebalancer le vote des plus âgés. C'est mathématiquement impossible. Donc on a besoin qu'il y ait une forme d'unité dans la société qui ne passe pas que par la résolution du conflit de génération. Je ne suis pas en train de vous dire que le conflit seul et unique dans la société, c'est le conflit de génération. Il y a évidemment un conflit de classe qui est énorme aussi. Mais il y a aussi ce conflit de génération qu'on a tendance à occulter parce que ça fait un peu, voilà, ça fait un petit peu peur, qui est réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus âgés votent beaucoup plus à droite. Votent pour des partis qui sont par définition conservateurs, c'est-à-dire qui conservent un monde qui est un système économique qui est en train de sacrifier notre avenir. Et là, on a un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que nous, ma génération, arrive au pouvoir. On ne peut pas se dire, OK, les jeunes, sur la question du vote pur, les jeunes votent avant tout écolo. Et après, ils votent à l'extrême droite. Mais ils votent avant tout quand même pour des mesures
écologiques. Ou à l'extrême gauche, c'est ce que vous expliquez aussi.
Oui, non, mais écolo, je dis écolo, oui. Gauche radicale, en tout cas, ce qui était incarné par la NUPES aux dernières législatives, où là, très massivement, les jeunes ont globalement voté pour ces partis-là. Et de l'autre côté du spectre, les plus de 65 ans ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron ou pour LR. Donc, qui sont des partis qui sont qualifiés par le Haut Conseil pour le Climat, par les instances qui sont les observatrices. Encore une fois, ce n'est pas une opinion comme ça politique. Hein. C'est qui disent que ce n'est pas à la hauteur, que c'est insuffisant ce qu'ils sont en train de faire. Donc on a quand même un vrai... On a un conflit, oui, une forme de fossé, en tout cas, entre les générations dans la manière d'aborder l'avenir. Et là, c'est ce que je veux essayer de montrer, c'est que c'est absolument inédit le fait que nous, notre avenir, soit entre les mains des générations actuelles. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'avant, on pouvait se dire, bon... Au pire, moi, quand j'aurai 40, 50 ans, j'en sais rien, peut-être que les choses vont changer et qu'on reconstruira autre chose. Là, avec l'emballement climatique, avec les limites planétaires qui sont en train d'être dépassées les unes après les autres, on ne pourra pas reconstruire quoi que ce soit de désirable une fois que tous ces degrés seront passés. Et ce sera trop tard, en fait. On pourra limiter, on pourra essayer de s'adapter, on pourra essayer de survivre, mais on ne pourra plus vivre sur une planète qui est habitable comme elle l'est aujourd'hui. Donc c'est ça, l'enjeu. L'enjeu est un des plus grands défis que l'humanité ait jamais connu. Et c'est pour ça qu'on a besoin que toutes les forces se mettent ensemble, que toutes les intelligences se mobilisent pour essayer de trouver une solution à ce problème qui est majeur. Et s'il y avait une solution simple, je serais pas là en train de juste écrire un livre sur la jeunesse. Évidemment qu'il n'y a pas de solution simple, qu'on a besoin de toutes les expériences, qu'on a aussi besoin que les plus âgés se mobilisent, parce que on en parle peu, mais il y a aussi les enfants. Alors, j'en parle même pas dans le livre, mais c'est quand même une grosse question. C'est celle des enfants. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas voter. Eux, ils ne peuvent pas se mobiliser. Pourtant, on est en train de sacrifier leur avenir. Les jeunes, où on dit ils n'ont qu'à s'engager, ils n'ont qu'à eux aussi créer le futur dont ils rêveraient, mais ils ont, encore une fois, ils n'ont pas les pouvoirs. Ils, ne sont pas, ils sont à une période qui est déjà difficile, c'est ce que j'ai essayé de montrer pendant 300 pages, et en plus, ils se construisent, ils sont dans un moment de recherche d'identité. On ne peut pas exiger des jeunes qu'ils soient tous structurés politiquement et qu'ils aient un mouvement organisé pour préserver leur futur. Les ingénieurs, enfin, je veux dire, les gens qui, aujourd'hui, ont l'expérience et le pouvoir, ce sont les plus âgés. Et donc, on a un besoin vital qu'ils aient une empathie suffisante à l'égard de la jeunesse pour vouloir mettre tout en œuvre pour sauver l'avenir de cette jeunesse qu'ils ne verront peut-être pas, si, puisque de par leur âge, ils ne vont pas vivre aussi longtemps que les plus jeunes. Et ça, c'est, à mes yeux, c'est inédit.
Et alors, ce que vous racontez dans votre livre, c'est juste hallucinant. L'écho, enfin le phénomène d'éco-anxiété que subit la jeunesse, que vit la jeunesse de plein fouet, ça aussi, c'est assez violent.
Bah là, c'est assez oui. Et puis là, encore une fois, inégalité intergénérationnelle, c'est-à-dire que les jeunes sont beaucoup plus inquiets pour le futur que les plus âgés.
Et beaucoup plus informés, ce que vous expliquez.
Ils le sont plus.
Mieux informés.
Objectivement, ils le sont plus, en tout cas dans les différentes études sociologiques qui ont été montrées sur, par exemple, la connaissance de l'origine anthropique du réchauffement climatique, c'est-à-dire le fait que ce soit causé par l'homme. On se rend compte que les jeunes sont plus conscients de ça, que c'est de notre responsabilité, que les plus âgés. Mais c'est surtout une question, d'anxiété et de peur de l'avenir. C'est-à-dire qu'on est un peu plus informés, mais surtout, on est plus concernés, parce qu'on sait que c'est nous qui allons devoir gérer le truc et qui allons devoir vivre là-dessus. Soyons honnêtes. Enfin, c'est ça le cœur du problème. Et là, il n'y a simplement pas une étude sociologique aujourd'hui qui ne nous montre pas que les jeunes sont terrifiés. Et c'est frappant. Chaque année, ça augmente. La dernière étude qui a été menée, et là, ce n'est pas qu'à l'échelle française, à l'échelle internationale, c'était une étude menée par la sérieuse revue The Lancet, qui nous montrait qu'un jeune sur deux à travers le monde souffre de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire la peur de cet avenir-là, la difficulté à se projeter dans cet avenir-là, et ça a des conséquences physiques très concrètes. C'est, vous pensez que peut-être c'est juste de temps en temps, ils se disent qu'ils ont un peu peur ? Non. Pour certains jeunes, ça les prostre, ça les paralyse, ça les empêche de vivre, ça les empêche de dormir. Ils sont terrifiés. Pas tous, mais quand même assez pour que ce soit un phénomène de société mesurable, par cette inaction. Et ce qui terrifie, c'est pas, et j'insiste là-dessus, c'est pas la catastrophe climatique, c'est le constat de l'inertie. C'est de se dire non seulement ce qu'on nous promet est absolument dramatique, c'est un des plus gros enjeux auxquels l'humanité ait jamais dû faire face, mais les gens qui sont au pouvoir ne gèrent pas du tout la situation. Ils ne sont pas du tout en train de prendre notre avenir au sérieux. Et on a l'impression d'être coincé dans une voiture, nous, les jeunes enfants à l'arrière, pendant qu'il y a des adultes au volant qui sont devenus complètement fous et qui sont en train de conduire à 130 à l'heure dans un mur. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est ça qui crée l'éco-anxiété. Et cette éco-anxiété se manifeste aussi chez des jeunes que j'ai pu rencontrer, qui ont une vision de l'avenir qui est terrible et qui, pour certains, va jusqu'à ne plus vouloir d'enfants, va jusqu'à complètement modifier leur comportement, va jusqu'à la prise d'anxiolytiques, ça peut aller très très loin. Après, j'insiste évidemment, comme toujours, sur la nuance. Il y a des jeunes qui ne sont pas du tout dans cet état. Il y a des jeunes qui ne se rendent pas compte aussi de ce qui les attend. Il y a des jeunes qui adhèrent totalement au système économique en place et qui participent. Je veux dire qu'ils sont en train d'acheter des actions chez Total à 25 ans. Ça existe aussi. Mais globalement, on a quand même une inégalité générationnelle, c'est-à-dire que les plus âgés sont globalement moins inquiets pour l'avenir que nous, les plus jeunes, face à la question du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité, d'ailleurs, dont il faut évidemment parler.
Il y a aussi quelques petites graines d'espoir, comme ces jeunes des grandes écoles qui commencent à se rebeller et refuser de recevoir leur diplôme. Ça aussi, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est impressionnant, cette anecdote.
Oui, c'est même plus qu'une anecdote. Aujourd'hui, il y a un vrai phénomène dans les grandes écoles. Alors, ça touche principalement les jeunes les plus aisés et les plus diplômés, ce qui paraît un peu logique, c'est-à-dire que si vous avez les moyens, c'est plus facile de se mobiliser, de prendre des risques, de changer de carrière, que quand vous êtes livreur Uber Eats et que vous luttez pour survivre, évidemment. Et on a de plus en plus des jeunes qui sont issus des grandes écoles. Je pense à Sciences Po Paris, je pense à Sciences Po, pas que Paris, d'ailleurs à Bordeaux apparemment vous êtes bien... bien mobilisée, à AgroParisTech, à Polytechnique, même à HEC, qui disent, lors de leur remise de diplôme, on ne veut plus participer à ce système économique. On ne veut plus suivre la marche qu'on nous a dit de suivre pendant toutes nos études. Et ça peut paraître un peu simple, peut-être, parce qu'on se dit, bon, ça va, ils sont jeunes, ils ne font, entre guillemets, que changer de métier. Mais quand vous avez étudié pendant 5, 6, 7 ans, arriver devant tout le monde, vos parents, vos professeurs, vos camarades, et devant le monde professionnel, en fait, de manière plus générale, et dire, en fait, je ne travaillerai pas là-dedans, je refuse ce salaire, je refuse cette carrière, je refuse ce confort qu'on m'a promis comme étant le Graal, c'est pas rien. Et ça suscite l'intérêt de pas mal de journalistes, et je pense à la journaliste Marine Miller, enquêtrice, qui a réalisé une enquête fantastique que je vous invite vivement à lire dans un livre qui s'appelle La Révolte, où elle documente le fait que là, on a un phénomène, encore une fois, générationnel, où on a de plus en plus de jeunes qui prennent conscience de la gravité de la situation et qui se disent « on ne veut plus participer à ça ». Ça, c'est pour la classe, comment dire, les plus favorisés, les élèves issus de familles les plus favorisées, souvent, ou de grandes écoles. Et il y a aussi un autre phénomène qui sont ces jeunes qui ne sont pas forcément aussi aisés, qui ne sont pas forcément aussi favorisés, mais qui, au bout d'un moment, se disent « je ne peux plus vivre comme ça, ce n'est pas possible, je ne peux pas participer à ce système ». En plus, il y a un problème de sens, évidemment, au travail, et donc qui quittent un travail, même s'ils n'ont pas forcément de filet de sécurité derrière, qui vont se mettre à vivre dans des collectivités indépendantes, qui vont essayer de trouver un autre mode de vie, mais qui sont globalement confrontés encore plus que leurs aînés, et leurs aînés le sont aussi, d'ailleurs, il faut le préciser, mais à la crise du sens au travail, et qui font le choix de bifurquer, et qui font le choix de changer de carrière, et de tout envoyer péter, en fait. Enfin, c'est ça dont on parle, au final. Et moi, je trouve ça assez courageux, et c'est assez fou de se dire qu'on a autant de jeunes qui, aujourd'hui, font ce choix. Alors, encore une fois, pas tous, le phénomène, pour le coup, n'est pas massif, c'est-à-dire qu'on n'a pas une majorité de jeunes, aujourd'hui, qui font ça, parce qu'ils sont notamment aux prises avec toutes ces difficultés économiques que j'essaie de décrypter. En revanche, ils sont très nombreux, dans les sondages qui ont été réalisés, dans les études qui ont été réalisées, à dire qu'ils le souhaiteraient, à dire « mais pour moi, l'éthique, c'est important au travail. Pour moi, faire un métier qui a du sens, ce serait, je préfère, enfin, ça fait partie des critères prioritaires. Juste avoir du temps personnel aussi, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est une priorité pour de plus en plus de jeunes. Et ça, pour moi, c'est déjà une rupture. » Avec ce modèle qu'on nous a vendu et qu'on a vendu à nos parents, qu'on a vendu à nos grands-parents, du travailler plus pour gagner plus, consommer plus, posséder plus, et c'est ça qui rend heureux. Et en fait, on est face à des nouvelles générations qui, pour une partie d'entre elles, ne veulent plus vivre comme ça, ne peuvent pas vivre comme ça. Et je trouve que ça vaut quand même le coup d'être documenté avec un autre angle que celui de les jeunes n'en ont vraiment rien à foutre et sont paresseux et veulent juste pas travailler. Non, ils essaient simplement de trouver d'autres voies, ils essaient de trouver un rôle aussi dans ce marasme et dans toute cette inquiétude et dans tout ce pessimisme. Et donc, pour certains, ça passe par le changement de voie professionnelle.
Alors, effectivement, après le constat assez apocalyptique que vous dressez de la jeunesse aujourd'hui, on serait tenté d'opposer les générations en se disant, franchement, ils avaient tout. Cette génération post-68 a tout eu. Et aujourd'hui, c'est une génération sacrifiée. Et vous dites surtout, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas, faut pas opposer les deux générations. On n'arrivera à rien avec ça. En même temps,
C'est un discours que j'ai retrouvé chez pas mal de jeunes, notamment dans les sphères écologiques, avec justement ce fameux clivage-là, qui est quand même très important, entre ces, entre guillemets, boomers qui auraient tout détruit, et ces jeunes qui arrivent et qui essaient de lutter, et ils ont leurs parents, grands-parents, qui leur disent « écoute, moi je prends un avion pour Tahiti, m'emmerde pas, quoi ». Non, mais parfois, il y a cette colère que j'ai pu retrouver, mais globalement, elle est complètement inutile et contre-productive. Et je peux la comprendre chez certains, mais on n'arrivera absolument à rien comme ça. Et puis, ce que je rappelle aussi, c'est que là, pour le coup, il faut quand même avoir une forme de peut-être pas de modestie, mais de se dire, bon, moi, si j'étais née à cette époque, j'aurais sûrement fait pareil. Mmh. On ne savait pas. Pour beaucoup, ne savaient pas. Nos parents, nos grands-parents ne se sont pas dit « bingo, je vais pourrir la planète ». Je pense que non, mais beaucoup d'entre eux ont juste suivi un système où on ne nous disait pas que c'était aussi grave ce qui est en train de se passer, où il faut rappeler les actions aussi de Total Energy. Oui, j'ai un petit truc contre Total, mais qui quand même a mené activement des campagnes de désinformation, des campagnes pour cacher au grand public ce qui était en train de se passer. Donc, on est face aujourd'hui à des générations plus âgées qui globalement ne savaient pas, qui ont bénéficié d'un Alors là, en plus, il faut vraiment faire la différence entre les années 80, 90, où il y avait déjà du chômage de masse qui commençait à arriver, et les années 60, où on avait les fameuses 30 glorieuses, avec un contexte socio-économique absolument incroyable, une espèce de parenthèse dorée, où tout n'était pas complètement doré, mais tout, par contre, poussait quand même à l'espoir. C'est-à-dire que même si on n'avait pas forcément beaucoup, on voyait que les enfants vivaient mieux que leurs parents, ce qui n'est plus notre cas aujourd'hui. Donc, oui, il y a aujourd'hui des personnes plus âgées qui ont bénéficié de ce contexte-là, et on aurait fait pareil, probablement, si on avait été à leur époque. Donc ça sert absolument à rien de jeter comme ça les « qui est coupable ?» chercher... Moi, même si quelqu'un a pris 50 jets privés dans sa vie, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il va faire maintenant. C'est-à-dire que là, on est en 2023, quand même. On sait. On a eu un été qui a été dramatique. Il y a eu des milliers de morts à cause de la canicule. On a des inondations qui se multiplient dans le sud de la France. On a un problème majeur de pénurie d'énergie. On a failli passer l'hiver. Heureusement que l'hiver était doux, parce que sinon, de toute façon, l'hiver prochain, on va le voir. On a un problème d'eau potable. On en est là. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Ce qu'il y a derrière les mots de réchauffement climatique, de perte de la biodiversité, c'est un problème pour se nourrir. C'est un problème pour avoir accès à l'eau, pour avoir accès à des choses absolument élémentaire, un problème pour se loger, un problème de sécurité face aux différentes catastrophes climatiques. Donc bon, peut-être que vous avez très bien vécu et que vous avez vécu, en fait, bien vécu autrement, en tout cas, mais là, maintenant, vous savez. Là, maintenant, vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on nous réserve à nous, les jeunes générations, parce que ça va continuer à empirer. Et un chiffre, s'il fallait vous convaincre, qui est paru dans la revue Science, un jeune né en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur qu'un jeune né en 1960. Donc là, on a vraiment une inégalité générationnelle qui est majeure. On a un besoin d'action. Plus on va culpabiliser les plus âgés, moins ils vont agir, je pense. Et moins ils vont venir nous aider et se mobiliser à nos côtés. Donc il s'agit de leur faire comprendre. C'est ce que j'ai essayé. C'est un peu un jeu d'équilibriste. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. En disant, quand même, regardez toute la liste des trucs qui se sont passés à cause de l'industrialisation et du néolibéralisme et tout, promu depuis les années 60. Regardez à quel point la jeunesse est en difficulté. Et maintenant, c'est pas une question de se sentir coupable ou responsable. C'est une question de se dire, maintenant, j'ai les moyens d'agir. Il faut agir collectivement maintenant. Et on ne peut pas se passer. On ne peut pas. Encore une fois, j'insiste, mais on ne peut pas se passer des plus âgés. Donc, c'est pour ça que la colère est... Oui, ce serait, à mes yeux, en tout cas, complètement contre-productif, même si je peux la comprendre chez certains jeunes.
Oui, le message principal, c'est plutôt d'agir ensemble sur l'urgence écologique.
Non, mais c'est une main tendue.
Ramener l'espoir aussi.
Alors, sur l'urgence écologique, mais pas que. Parce qu'il y a vraiment... C'est un système global, de toute façon. C'est écrit dans la synthèse du dernier rapport du GIEC, qui est paru il y a 2 semaines, qui disent qu'il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale. C'est un élément, c'est corrélé. Donc on peut pas juste... C'est pour ça que c'est pas qu'une question d'écologie. C'est une question aussi de maîtrise des ressources, de répartition des ressources et des richesses. Et ça demande aussi de prendre les jeunes en compte, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, alors là c'est absolument, encore une fois, écrasant, ne sont clairement pas ceux qui possèdent les richesses. Et ça va pas s'arranger avec le temps. Et c'est là où ça... contrevient à un cliché, c'est qu'on peut se dire « Oui, mais moi, j'ai galéré aussi quand j'avais 20 ans. » Mais là, on voit que c'est une précarité qui est en train de s'installer chez les nouvelles générations, qui ne se rattrape pas autant qu'avant avec le temps. Et donc, en fait, quand on commence avec un stage, on ne va pas enchaîner sur un CDI. On va enchaîner sur un autre stage, puis un autre stage, et peut-être un contrat en intérim, et peut-être un CDD. Et en fait, cette précarité va s'installer, et un des seuls moyens d'y faire face, c'est d'hériter. Et si on est dans une société où les inégalités quand même se creusent, où les riches sont de plus en plus riches, je ne vais pas vous refaire le poncif, et qu'il y a une minorité de plus en plus mineure qui accède aux richesses, on ne va pas de toute façon pouvoir faire établir cette transition écologique. Et on ne pourra pas préserver l'avenir du plus grand nombre. Donc si on veut une société... Après, c'est un choix de société. Si on décide de sacrifier la plupart des gens pour qu'ils n'aient pas accès aux ressources et que ce soit dramatique, on peut faire ce choix. Mais je pense que c'est pas un choix que la majeure partie des gens auquel la majeure partie des gens aspirent. Et donc on a besoin de repenser collectivement ce système économique, ce système social, de faire aussi des choix démocratiques. C'est aussi des questions très démocratiques. Il y a tout un volet où je parle de l'aspiration des jeunes aux questions démocratiques. C'est que il faut que les gens participent, comprennent pourquoi on va devoir faire ces choix-là. Par exemple, quand on nous parle d'écologie punitive, on ne parle pas de ce que va être la non-écologie. à quel point ça va être beaucoup plus punitif que les fameuses mesures de sobriété ou, qui sont souvent brandies comme étant des entraves à nos libertés. Moi, pour moi, si j'ai pas assez à boire, c'est une entrave encore plus grande à ma liberté de tout simplement vivre. Et donc, il va falloir s'organiser collectivement. Et ça, pour moi, l'urgence climatique, ça doit être une forme de boussole qui est là parce que c'est le plus gros enjeu, mais ça, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas juste baisser les émissions de CO2. C'est se réorganiser collectivement pour que, en gros, tout le monde ait assez pour vivre correctement. Et ça, c'est bon courage.
C'est pas gagné.
Oui, c'est pas gagné.
Et moi, j'avais envie de vous demander, Salomé Sacqué, quel serait le livre idéal que vous auriez envie d'écrire en 2043 ou en 2053 ? Qu'est-ce que vous avez envie de... Ce serait quoi la solution et qu'est-ce que vous avez envie de raconter ?
En 2053 ?
Ouais, dans 30 ans.
Oh, ben un livre historique sur comment on a failli ne pas faire face à la transition écologique, mais comment soudainement il y a eu un réveil de toutes les autres générations qui sont venues nous aider. Merveilleux, ouais. Je vous raconterai ça.
Ben merci Salomé Sacqué, merci beaucoup.